Salut, c'est Champ Libre. Champ Libre, oui, mais pas n'importe lequel. Le Champ Libre numéro 640 est le premier champ libre, je ne sais pas si on a le droit de dire ça, premier champ libre mensuel de l'année. Donc, premier champ libre mensuel de l'année, ça signifie invité, ok.
Oui. Meilleurs vœux. Bonne année.
Voilà. Bonne année.
Plein de bonnes choses.
Joe sera là donc, pour nous parler d'images qui bougent.
Toujours là.
Je ne sais plus combien par seconde.
24 normalement.
Voilà. Et Damien.
Bonsoir.
Et là aussi, pour nous parler de musique.
Qui crie,
qui fait du bruit. Laurent est caché derrière la vitre. En fait, on le met volontairement derrière la vitre. Et il s'occupe de la technique et des manettes. Donc, s'il y a un truc qui cafouille quelque part, c'est pas nous, c'est lui. On va parler de cinéma, on va parler de musique métal, on va parler de bouquins comme chaque mois. Mais on va commencer par un petit morceau de musique d'un groupe de barbus démoniaques. Si je vous montre une photo, vous allez reconnaître, un troupeau de bûcherons, chemise à carreaux, grosse barbe. Et ces mecs-là sont capables de pondre une musique angélique, avec des petites voix, des chœurs, des arrangements, des guitares légères, des synthés typés années 80, mais pas déplaisant quand même. Bref, un groupe que les animateurs de Champ Libre ont vu deux ou trois fois en concert, et chaque fois ils sont ressortis comme si ils avaient consommé des substances illicites. En fait, non, c'est la musique de Grand Daddy qui fait cet effet-là. Alors, Grand Daddy, c'est un groupe qu'on aimait beaucoup, c'est un groupe qui avait splitté, c'est un groupe qui avait expliqué également qu'il splittait, parce que ça coûte trop cher aujourd'hui, il n'y a plus personne pour payer le matériel, les billets d'avion, de train, etc., pour transporter du matériel et venir jouer en Europe, lorsqu'on est américain. Et puis, nous, on les regrettait, et eux, nous regrettaient très certainement, puisque le groupe s'est reconstitué, qu'on a eu droit à deux ou trois morceaux, histoire de nous mettre en bouche et en oreille. Et puis, ils viennent d'annoncer que l'album sortirait le 3 mars, donc je croise les doigts, et l'album s'appellerait Last Place. Et en attendant, on a un petit titre qui tourne en boucle, ça s'appelle « Way We Want ».
Smell and holiday sales. Why would we ever move?
Where We Want, Grand Daddy, en attendant l'album au mois de mars. Donc, puis soyez tranquille, dans Champ Libre, nous ne manquerons pas de vous le faire savoir et de vous casser les oreilles. Ça risque de devenir très rapidement le favori de l'émission. On se connaît. Joe, on se connaît déjà depuis quelque temps. Je parie que tu vas nous parler de cinéma.
Bah, bravo. Exactement, c'est ça. Bah, je vais commencer par parler effectivement d'un film qui plus est un petit coup de cœur et qui plus est, pour commencer l'année, d'un petit bijou qui est sorti ce début de mois de janvier, en fait, qui est le dernier né de Pablo Larraín. Donc très très beau film de ce début d'année. Neruda, sur le fameux poète. Donc bon, Pablo Larraín, bref, résumé, s'est déjà distingué par son excellente trilogie sur la dictature de Pinochet, et son dernier film, déjà, El Club, traitait de la religion et des dérives des prêtres chiliens.
L'histoire de pédophilie.
Exactement. Le réalisateur, et pas que, et le réalisateur évoque une nouvelle fois, là, pour le coup, un pan de l'histoire du Chili à travers la figure mythique du célèbre poète, prix Nobel de littérature, en 1971.
Lui aussi.
Voilà.
Non, rien.
Oui, voilà. Ouais. Mais qui écrivait de la littérature, de la vraie. Enfin, bref, genre, on va pas revenir. À la fin des années.
Et des chants, y compris le chant général.
Oui, tout à fait. À la fin, donc, bref résumé, à la fin des années 40, donc Pablo Neruda est reconnu coupable de traîtrise au régime de Videla, du fait de son appartenance au Parti communiste. Recherché, il doit fuir, se cacher, voire envisager l'exil. Pour le traquer, l'arrêter, voire même l'abattre, le gouvernement mandate un drôle de flic, Oscar Peluchono, incarné par Garcia Bernal, fabuleux également, personnage étrange, sombre et pathétique, commence alors une cavale pour Neruda, cavale bien réelle, hein, entre 1947 et 49, mais qui va se transformer sous la caméra de Larraín et l'écriture de Guillermo Calderón en un éblouissant et sidérant poème cinématographique. Alors bon, comment parler de ce film en 10 minutes? Je vais déjà commencer par une citation du réalisateur, Pablo Larraín. Il présente Neruda en ces termes. « Neruda est comme l'eau qui coule sur les doigts. On ne peut pas l'attraper, mais les mains restent mouillées. » Ainsi, Neruda, pourchassé par Peluchono, introuvable, incarné par l'excellent Luis Gnecco, Pablo Neruda est fabuleux, paraît au fur et à mesure de sa traque tracer les lignes de son ennemi intime, inventer les traits, les faits, la personnalité de celui-ci, comme si Neruda souhaitait être pourchassé, marquant pour lui la reconnaissance de son existence, de son importance et de sa dangerosité. Le film navigue sans cesse entre le rêve et la réalité, et c'est sous cet aspect carnavalesque de jeu de piste, une confusion s'installe sur le maître des cartes. Le narrateur est bien Peluchono, le flic, mais Neruda anticipe tous ses faits et gestes, tel un marionnettiste qui manipule l'autre. Film écrit, réalisé et interprété avec brio, Neruda ne répond à aucun code balisé du biopic. Donc je dirais cet anti-biopic et ce fascinant et poétique jeu de piste est également une extraordinaire réflexion sur la quête identitaire d'un pays dévoré pendant longtemps par la dictature visant à annihiler les poètes et les révolutionnaires. Il importait davantage à Pablo Larraín de naviguer dans l'imaginaire de l'auteur, de montrer cette figure créatrice et son immense impact sur le peuple en la déstructurant, confondant à la fois la personne et le mythe. Pour conclure, je citerai encore une fois Pablo Larraín qui disait, dans une interview, « Ailleurs, ce sont les historiens ou les journalistes qui fondent la mémoire et l'identité. Au Chili, ce sont les poètes, et c'est pourquoi ce pays me donne parfois le sentiment d'une abstraction. » Donc voilà pour Neruda. Très bon film.
On va peut-être creuser un peu.
Ah,
ce
mais
film.
Oui, il faut.
Ceux qui. Tu me contredis si je dis une bêtise.
Je n'y manquerai pas.
C'est sûr. Ceux qui vont voir ce film en pensant, alors, allez voir, tu l'as dit, un biopic sur Neruda.
Un faux biopic.
Vous faites fausse route.
Oui, c'est un faux biopic.
C'est absolument pas
absolument
historique.
Pas historique.
Au contraire, je pense que la plupart des fans de Neruda, des militants, etc., sont extrêmement choqués lorsque Larraín, dans son film, au début, présente Neruda comme quelqu'un un but de sa personne.
Oui, alors c'est pas c'est pas quelqu'un de super-héros, sûrement pas. Ça reste quelqu'un quand même qui est humain, qui est assez assez désagréable en
imbuvable,
plus. Imbuvable, oui, complètement.
Je crois qu'il y a un personnage qui à un moment lui dit le seul truc qu'il faudrait que tu fasses c'est apprendre à être un petit peu moins un but de ta personne.
Oui, exactement, parce que il en présente pas, il en fait pas, il statufie pas non plus le personnage. Hein. C'est-à-dire que c'est un génie littéraire, c'est un génie politique pour beaucoup de Chiliens, mais à côté de ça, il en fait quand même une personne assez désagréable. Et mais c'est montré également, enfin voilà, dans le film, ça il l'occulte pas en tout cas.
Ce qu'il faut dire également, c'est que on a du mal à imaginer ce qu'a pu être Neruda, entre autres. Et il y en a eu d'autres.
Oui.
Pour les Américains du Sud ou pour les Latino-Américains, Neruda, pour nous, c'est un poète.
Mm-hmm.
Mais pour les Chiliens, dans les années 40, c'était carrément une institution.
C'est une institution parce que c'est à la fois un homme politique, engagé, qui plus est, qui fait front face au gouvernement de Videla, en fait.
C'est Jésus.
Et c'est quelqu'un qui met la douleur des gens, incarne la douleur du peuple par des mots. Les mots qui reviennent, hein, parce que c'est un film extrêmement poétique, très très beau. Très bien structuré, très très bien écrit, et les mots reviennent inlassablement, les mots de Neruda, et c'est très très beau, très très beau à voir, très très beau à regarder en tout cas.
Alors Joe, toujours pour les auditeurs, il y a les mots, il y a Neruda, ce qu'il dit, je ne vais pas revenir là-dessus, il faut lire tout ce qu'il a pu écrire, mais dans le film, le poète est souvent moche, ridicule.
Le poète est souvent moche, ridicule, et qui plus est, ce qui est étrange au début, je me permets, c'est que celui qui prend la parole le plus souvent n'est pas Neruda, mais
le flic,
en fait, hein, qui cherche, on dirait, à être incarné, finalement.
Le flic à moitié abruti, à moitié con, c'est pas moi qui le dis, c'est dans le film.
Oui, oui.
Hein, c'est un autre personnage. Ce mec, il l'enviait, hein, qui voudrait l'arrêter, le dévorer, le bouffer, c'est lui qui va fondre.
Oui, mais qui petit à petit n'y arrivera pas.
Voilà. Alors, ce qu'il faut peut-être dire quand même, c'est que c'est ça la difficulté de la chose. Le film, c'est une comédie. C'est pas un biopic.
Pas vraiment une comédie. Hein. Je le présenterai pas comme ça en fait. C'est un film à la fois onirique et une sorte d'allégorie sur l'identité, une réflexion sur l'identité. Et un film à la fois un film assez amer quand même sur le Chili, sur cette époque du Chili, et assez onirique quand même entre le rêve et la réalité. On sait pas trop, c'est pas vraiment une comédie, je le définirais pas comme une comédie.
Alors,
absolument pas.
Pourquoi je dis que c'est une comédie? Tout simplement parce que le réalisateur essaie de nous montrer que à cette époque-là, Neruda en fait partie, ces gens qui avaient une superbe auréole de défenseurs du peuple. Alors je cite, hein, c'était une intelligentsia qui, pendant la guerre froide, enchaînait les déclarations prolétariennes, mais qui ne sortait pas de son lit, si son linge n'était pas lavé, repassé. Ce héros des masses, lui, qui se pavanait en toge et récitait des poèmes devant des convives avinés et des chiens capricieux alors que les boniches faisaient le ménage, tous ceux qui avaient les moyens de prendre l'exil, tandis que les ouvriers communistes, eux, étaient déportés dans des camps au milieu des déserts de sel. Voilà. Alors, je suis d'accord avec toi, là on est au cinéma, on se fabrique des héros, hein. Staline a été un héros en son temps, je ne dis pas que Neruda c'est Staline.
Ça je trouve que ça participe à l'image pathétique hein, qui donne de Neruda justement de côté non aimable en fait et difficile d'accès de ce personnage.
Parce qu'on veut des héros.
Le Chili voulait.
Non, je parle de nous aujourd'hui. C'est toi qui parles.
Ah non, pas
c'est
forcément.
Difficile, hein,
c'est compliqué de regarder
en face.
En tout cas, la situation politique du Chili à l'époque faisait qu'il voulait des héros et à travers cette personne.
Voilà. Alors,
assez complexe.
Ce qui donc Neruda qu'il faut aller voir.
Oui.
Ce qu'il faut dire également, c'est que Neruda est mort beaucoup plus tard. Après 73, après un coup d'État, donc bien après ce que raconte le film.
Oui.
Et là, pour le coup, tous ces gens dont je parlais, là, qui, qui vivaient avec les boniches, qui nettoyaient leurs verres et leurs trucs. Ceux-là, ils ont été exécutés et balancés du haut des avions.
Oui.
Mais bien après, par M. Pinochet, qu'on devine un peu dans le film.
Alors oui, qu'on devine, arrive. Qui arrive dans le film, qu'on voit apparaître. Et ça, pour ça, il faut vraiment se tourner vers les trois premiers films de Pablo Larraín, Tony Manero, Santiago Postmortem, Setenta y Tres et No, qui sont vraiment des films très très importants et différents sur la dictature de Pinochet.
On écoute un petit morceau de musique qui a été choisi par Joe.
Oui.
Il s'agit du groupe Kaleo.
Kaleo, groupe islandais.
Groupe de là-haut. Et le titre. Alors l'album s'appelle A sur B.
A sur B, qui est pas un très bon album, hein, il faut le dire. Donc c'est juste que.
Ouais, bah, voilà.
C'est un euphémisme.
Voilà ce qu'il faut, exactement ce qu'il faut dire pour lancer un titre à la radio.
Non, mais
et
voilà.
Le titre,
par contre,
no
alors
good.
C'est No Good, exactement.
No good, Kaleo. Je ne ferai pas un mauvais jeu de mots, mais effectivement, le titre est très blues, rock, etc. L'album est très différent. Je n'ai pas dit no good. On va...
Faut écouter que ce morceau, en fait. Hein.
Ouais, là, alors le reste, c'est plutôt folk. Ah,
un peu mou, quoi.
Entre guillemets. Oui. Mou du genou, comme diraient
ouais,
certains.
Exactement.
On a beaucoup parlé l'année dernière de David Bowie. Dans la presse, on nous parle surtout de David Bowie en tant que rebooster des ventes de vinyle en Angleterre. Comme quoi, il vaut mieux être mort pour vendre son œuvre. Donc, c'est pas de ça dont je voulais vous parler. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'on revienne quelques minutes sur une pièce de théâtre, une comédie musicale qui a été donnée, représentée il y a quelque temps déjà, avant la mort en tout cas de David Bowie. Et cette pièce de théâtre intitulée Lazarus, comme le dernier single de David,
de Bowie, oui.
Cette pièce de théâtre, cette comédie musicale, est en fait calquée sur le scénario de L'homme qui venait d'ailleurs, le film de David Bowie. Dans cette comédie musicale, il y a un tas d'artistes plus ou moins, je dirais pas connus, je dirais plutôt plus ou moins connus, en tout cas que moi je ne connaissais pas, qui reprennent soit des titres de David Bowie, This Not America, Changes, Absolute Beginners, etc., etc. Et puis, de temps en temps, sur la sono du théâtre, ils envoient d'autres morceaux de musique, des titres de Ricky Nelson, là on remonte carrément au rock'n'roll. Et puis, tout à fait vers la fin, il y avait un ou deux titres chantés par David Bowie, mais qui n'étaient pas là physiquement, mais tout simplement sur la bande magnétique qui était, sur le fichier numérique qui était envoyé à ce moment-là. Voilà, cette pièce de théâtre, Lazarus, a fait l'objet d'un CD et demi, c'est pas un double CD. Premier CD, la représentation originale avec tous les artistes que je connais pas. Et puis un deuxième CD avec quatre titres.
Quatre titres,
Lazarus, No Plan, Killing a Little Time et When I Met You, qui, eux, sont chantés par David Bowie.
C'est des deux, quatre chansons, c'est un peu limite quand même.
Voilà. Ouais. Alors, est-ce qu'il faut se précipiter sur ce disque? Si vous aimez David Bowie, très certainement. Si vous êtes moyennement fan de David Bowie, je suppose que vous n'aurez pas envie de jeter une oreille sur la chose. Moi, je l'ai fait. Et j'ai été agréablement surpris. J'aimerais bien voir la représentation. Les artistes choisis, en règle générale, ont plutôt un bon niveau. Et comment dire, on n'est pas trop déçu par les interprétations de chansons qu'on aime beaucoup lorsque c'est le grand Bowie qui les chante.
Okay.
Voilà, on va écouter Lazarus, donc un des derniers titres chantés par Bowie, mais interprété par Monsieur Michael C. Hall, et c'est extrait donc de Lazarus, la bande originale de cette pièce diffusée à Broadway il y a un petit peu plus d'un an.
Thank you. Favori.
Favori de l'émission, depuis déjà quelques semaines, c'est l'album de Toy, les Anglais de Toy. L'album s'appelle Clear Shot et le titre diffusé ce soir, Fast Silver. toujours sur Couleur FM et vous écoutez Champ Libre. Damien, de qui, de quoi va-t-on parler ?
Eh bien, chers auditeurs, mauvaise nouvelle, aujourd'hui nous allons nous poser la question de ce que devient un groupe quand ses deux membres fondateurs l'ont quitté. Ce groupe, c'est Sepultura, leader de la scène métal brésilienne, qui sort Machine Messiah ce mois-ci, d'ailleurs semaine tout récent puisque c'est sorti vendredi, dont on va écouter un extrait, I Am The Enemy, tout de suite.
Toujours sur Couleur FM, c'est pas une alerte.
Et non, vous n'êtes pas sourd. L'album démarre par le morceau éponyme, Machine Messiah donc, qui ne laisse rien présager de bon. 6 minutes de métal poussif et ennuyeux, une impression de déjà vu.
À la fin était pas mal quand même.
Oui, mais bon, on verra pour la suite.
Bon.
Bah, une impression de déjà vu en fait, hein, avec ce premier morceau qui, disons-le honnêtement, ne nous donnait pas envie de poursuivre l'écoute, mais chronique mensuelle oblige. J'ai écouté la suite, à savoir I Am The Enemy, voilà, que l'on vient d'écouter. Morceau violent s'il en est, ce ne sont pas vos tympans qui me contrediront.
C'est pas des acouphènes à la fin, donc c'était bien dans la musique.
C'est bien dans la musique, c'est tout à fait normal. Ça. Donc vos tympans vont très bien, j'espère. Et bah, ce morceau nous rassure un peu quant à la suite, car il témoigne d'une hargne salvatrice dans la droite ligne de ce qu'a pu faire le groupe à l'époque des frères Cavalera. Donc ceux qui ont fondé l'album, ceux qui ont fondé le groupe, pardon, et qui après sont partis.
Ils sont en prison.
On est encore loin de... Non. Ils sont pas en capable. On est encore loin de Roots Bloody Roots, mais bon, ça fera l'affaire. On l'écoutera tout à l'heure. Phantom Self se rapproche un peu plus d'un style hardcore et s'affranchit du son qu'a pu avoir le groupe par le passé, notamment avec l'usage des cordes qui ajoute une touche symphonique qui est loin d'être déplaisante. En revanche, Aletea n'est pas un mauvais morceau en soi, hein, loin de là. Disons simplement qu'on peine à lui trouver de l'intérêt, que si le morceau, enfin si l'album, si c'était pas présent sur l'album, ça manquerait pas plus que ça. Iceberg Dances, malgré un riff bien groovy sur lequel je serais loin de cracher en pogo, se révèle aller à la longue assez ennuyeux, mais sauvé in extremis sur la fin par des guitares brésiliennes, un petit côté bossa nova qui est assez surprenant mais agréable. Ce n'est pas le cas en revanche de Swan Oath, que ni un riff ni des guitares brésiliennes ne peuvent sauver, tant on a l'impression d'avoir entendu cette chanson des dizaines de fois. Voilà, c'est malheureusement ce que le métal peut engendrer parfois de plus ennuyeux. Voilà, on a l'impression de réécouter l'album d'Anthrax que j'avais chroniqué l'année dernière. Voilà, cette impression de soupe, voilà, qui...
Déjà entendu.
Voilà, la soupe. Sur les 5 minutes que dure Resistance Parasite, on ne sauvera rien des 3 premières, si ce n'est une bonne basse bien grasse. Voilà, c'est le bassiste qui parle. Mais sur les 2 dernières minutes, le morceau se transforme en déluge de violence très appréciable pour lutter contre l'ennui qui nous avait gagné. C'est une touche un peu plus trash industrielle qui colore Silent Violence, que l'on caserait volontiers dans les bonnes surprises de l'album. Idem pour Vendor's Nest, balancé à toute berzingue et qui fait mal au cervical. Voilà, je ne vous réexplique pas le principe du headbang, mais en général, ça fait mal au cervical. Malheureusement, on déchante vite avec Cyber Gods, sorte de cliché death metal qui n'a ni la sombreur des groupes nordiques, ni le côté extrême des groupes fondateurs du genre. Néanmoins, l'album finit en beauté avec Chosen Skin, rapide et sans concession, qui allie violence et groove pour une ambiance musicale qui se rapproche fortement du hardcore, mais aussi... étonnamment, avec Ultra 7 No Uta, une reprise de Ratos de Porão, je ne suis pas certain pour la prononciation, qui est un groupe de punk brésilien, inconnu de ce côté-ci de l'Atlantique, mais qui se démarque du reste de l'album, ce qui donne une très bonne surprise finale. Alors pour la faire courte, Machine Messiah est un album assez moyen, vous l'avez deviné, qu'il plaira sans doute aux plus grands fans du groupe, mais qui reste dispensable pour les autres. La faute n'est pas imputée à Derrick Green, le chanteur qui avait remplacé Max Cavalera à la fin des années 90, puisqu'il a largement fait ses preuves depuis et qu'il est peut-être le seul aspect positif de cet album. Selon moi, le problème vient plutôt des compositions, qui sont pas assez originales et surtout beaucoup trop longues pour la plupart. La preuve en est, les meilleurs morceaux ici sont les plus courts. Pour autant, je conseille à tout le monde d'aller les voir en concert. Je les ai vus au Hellfest et croyez-en témoin, c'est vraiment ça vaut le détour. Mais pour les versions des albums studio, mieux vaut vous référer au toujours excellent Roots, qui était sorti au début des années 90 et qui est un sommet du genre et qui a pas pris une ride. Je l'ai réécouté juste après ces purges entre guillemets et vraiment écoutez-le.
Si je puis me permettre un petit commentaire, je sais pas si vous vous rendez compte que depuis le début de cette émission, vous dites voilà, je vous passe un truc, mais surtout il faut pas l'acheter.
Non, moi j'avais commencé à parler de poésie.
Non, mais vous pouvez essayer de vous raccrocher en branche si vous voulez, aux cordes de la basse de je sais pas qui.
Ah, mais j'ai insisté pour passer un morceau qui était bien pour le coup. Hein.
Ouais, mais tu sais, les magasins ils vendent pas au détail.
Non, ouais, malheureusement, c'est vrai.
Ah, si.
Et pourtant, si.
En streaming.
En streaming. Ah, oui, ça s'appelle comme ça.
Il faut pas citer les marques.
C'est comme Voldemort.
Ouais, c'est comme Voldemort. Du coup, Machine Messiah, c'est plus rap, donc moyen.
Ouais, moyen, puis c'est frustrant, hein, parce que Sepultura, c'est vraiment un bon groupe, puis voilà, comme j'ai dit en concert, ça vaut le coup, d'ailleurs, il passe...
Ceci dit, tu l'as dit toi-même, c'est la bonne occasion pour tous les fans de métal de passer enfin au punk.
Ouais. Après, est-ce que Machine Messiah est un album
punk? Ou à la musique brésilienne, puisqu'il y a un quatuor record. Là.
Ouais, après, je sais pas quand même, peut-être que le passage de Sepultura avec quelques guitares brésiliennes à des albums de Bossa Nova, je pense qu'il y aura quand même un décalage. Hein.
Ok, mais je suis d'accord avec toi. Mais, donc, moi je suis rassuré, le machin qui sifflait, c'était pas mes oreilles, c'est pas mes acouphènes, c'est Sepultura.
Ouais, voilà, Sepultura. Et bah on va écouter tout de suite un des deuxièmes morceaux que j'avais sauvé sur l'album, un morceau qui s'appelle Phantom Self et qui est pas si mal si jamais vous voulez vous attarder un peu sur quelques chansons. Ça fait partie des morceaux que je conseille.
Et donc c'est de la musique écoutable à 20h30, Laurent, pas sûr, bon allez, tant pis.
Phantom Surf, donc de Sepultura.
Merci Damien. On parle de bouquins, ça reposera un peu les oui. oreilles des vieux oui, chenocs que nous sommes. Je parlais pas de toi, Damien, bien sûr. Trois bouquins, pas de romans ce mois-ci, le mois prochain. Des bouquins qui sont sortis en 2016 pour deux, et puis le troisième est sorti la semaine dernière. Alors quand même, le Champ Libre, c'est une émission dans laquelle on parle de musique rock, mais pas que. Donc je commence par celui-ci, écrit par M. Barry Miles, je vous dirai qui il est après. Le bouquin s'appelle « In the 70s, aventure dans la contre-culture », c'est le sous-titre chez Castor Music. Alors, Barry Miles, c'est un gars qui a écrit des tas de choses, des biographies de Paul McCartney, des Beatles. Et il a écrit, il y a quelques années, un bouquin extraordinaire qui s'appelle « Ici Londres, une histoire de l'underground londonien ». Et il a collaboré à un super bouquin qui était sorti il y a un an et demi ou deux, qui s'appelle « Hippies », gros album avec plein de photos de San Francisco, Berkeley, de la période « Summer of Love », comme on dit. Donc là, il vient de sortir « In the 70s, aventure dans la contre-culture », dans laquelle dans lequel il nous explique que la contre-culture, c'est quelque chose qui s'est constitué petit à petit et qui a trouvé son apogée au milieu des années 60 à travers la musique dont on n'arrête pas de parler ici, mais pas que. Donc le fameux Barry Miles, en 65, il était conseiller culturel des Beatles. Il a créé la galerie Indica, dans laquelle il y avait des expositions, en particulier une exposition de Madame Yoko Ono, à l'occasion de laquelle, blablabla, elle a rencontré notre ami à tous. Barry Miles avait créé également à cette époque-là un journal qui s'appelait IT, International Times. C'était l'ancêtre de la presse contre-culturelle, underground, qui servira de modèle à la presse libre telle qu'actuelle pour... Les plus anciens se souviennent peut-être, avec à l'intérieur de cette revue des articles de William Burroughs, de Allen Ginsberg, voilà, pas n'importe qui. En 69, il fait le tour de l'Amérique, il rencontre tous les penseurs de la contre-culture, Ginsberg, Burroughs, mais également il visite les communautés hippies. Il va se balader à Big Sur pour rencontrer Henry Miller, qui enfantera Henry Miller... les John Fante, les Jack Kerouac, les Charles Bukowski, tous les écrivains de la Beat Generation. Voilà, donc le « In the 70s » de Barry Miles, ça nous raconte tout ça. Ce sont des petits articles qui nous racontent tout ça. Alors, bien sûr, au milieu de toutes ces choses mythiques, il y a quelques tragédies. Par exemple, la tragédie des Weathermen. Les Weathermen, c'est les Black Panthers blancs. Des Blancs qui rêvent de faire la révolution à la façon des Panthères Noires, des Black Panthers. Ils voulaient à l'époque transporter le Vietnam en Amérique en posant des bombes. Alors ils l'ont fait, sauf que la bombe a sauté par accident dans leur bagnole en plein milieu de New York. Fin de l'aventure des Weathermen. Après, Barry Miles va frayer avec le milieu punk. Il sera rock critique pour le NME. Et dans ce bouquin, il nous raconte donc de belles choses, mais il nous raconte également des choses un petit peu moins sympas. En particulier, il parle beaucoup d'addiction. Addiction à tout un tas de choses, hein, l'alcool, la drogue, etc., les amphétamines. Enfin voilà, comment ils disent dans les revues, le portrait d'une génération avec une seule inconnue. Pourquoi tant de révoltes à cette époque, tant de délires, et puis pourquoi, sur la fin, tant d'attitudes suicidaires et masochistes. Je pense à tous les points qui sont passés de l'autre côté un peu rapidement. Voilà. Alors, il nous explique qu'aux US, la violence est omniprésente, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, la révolution hippie, le Flower Power, ça s'est déroulé avec une contre-révolution extrêmement violente. Si vous voulez en avoir une petite idée, allez voir un film magnifique qui s'appelle Easy Rider. avec messieurs Dennis Hopper et Peter Fonda. Donc In the 70s, Barry Miles, ça commence en 63 avec les Beatles et ça se termine avec le punk en 77-78. Chose sérieuse, le reste était sérieux, mais là ça va être un petit peu plus sérieux, deux bouquins d'histoire. On parle beaucoup d'histoire depuis quelque temps. Il y a des gens qui se réveillent, qui existaient, hein, mais qui se réveillent et qui prétendent que la France, c'est pas ce qu'on a aujourd'hui. La France, c'était mieux avant. Puis la France, c'était Charles Martel, etc. etc. Les historiens, qui sont souvent trop sérieux, c'est-à-dire incompréhensibles pour le grand public, certains historiens ont décidé de réagir. Et il y a deux bouquins qui viennent de sortir que je trouve hyper intéressants. Le premier qui est sorti l'année dernière s'appelle « Les luttes et les rêves », une histoire populaire de la France. Ça commence en 1685 jusqu'à aujourd'hui. C'est chez Zone, La Découverte. Ça nous raconte l'histoire de France un peu à la façon de l'histoire populaire des États-Unis de M. Howard Zinn. Ça nous raconte l'histoire de la France par les luttes du peuple. Donc ça commence par le code noir, esclavage, hein, le code de l'esclavage à la française. Et ça se termine avec la Nouvelle-Calédonie et puis un petit peu plus près de nous, les attentats de l'année dernière. Voilà, les luttes et les rêves. Un bouquin extraordinaire. Si en plus vous avez quelques années au compteur, vous allez vous retrouver dans ce bouquin-là, hein, l'écologie, etc. Dernier bouquin, un gros pavé mais hyper intéressant, Histoire mondiale de la France. C'est sous la direction de M. Patrick Boucheron, c'est édité au Seuil. Pourquoi Histoire mondiale de la France? Parce qu'il y en a qui voudraient que la France, ce soit ça. Quelque chose qui naît avec le baptême de Clovis, avec Charles Martel éventuellement, qui arrête les machins à Poitiers, etc. etc. Tous ces événements, on n'est même pas capable de les dater aujourd'hui. Cette histoire qu'on voudrait nous imposer, c'est une histoire parmi des centaines d'autres histoires qu'on pourrait raconter. Donc l'histoire mondiale de la France explique que la France n'existe pas sans le monde. Et pourquoi pas, le monde ne serait pas ce qu'il est sans la France. Mais la France a fait des choses magnifiques, elle en a fait d'autres qui le sont beaucoup moins. Colonisation, etc., ça l'est beaucoup moins. C'est un ensemble d'articles courts, hyper faciles à lire, donc ce n'est pas réservé aux pros de l'histoire. Et c'est un livre qu'il faut absolument lire en ce moment. Pourquoi en ce moment? Parce qu'on va nous prendre la tête tous les jours, toutes les heures, tous les soirs, à la télé, à la radio, pour nous dire « La France est en danger, il faut se protéger, fermons les frontières, la France n'existerait pas sans le monde. » Voilà. Alors, moi, je voudrais quand même qu'on termine ce champ libre en musique. Merci, Joe, pour la
merci.
Pour le cinéma. Et Damien, pour ses pulturages. J'ai encore l'oreille qui siffle. Je signale à mes auditeurs que la semaine prochaine, Champ Libre sera un champ libre spécial consacré à trois coffrets. Coffret Manset, le coffret Big Star et le coffret Pink Floyd. Ces trois choses sont monstrueuses, au sens monstrueuse. Et je vous propose de terminer avec un titre, justement, extrait du Big Coffret Pink Floyd. Ça a à voir avec le cinéma, Joe, puisque c'est un titre qui a été écrit, mais qui n'a pas été utilisé, par M. Antonioni pour son film Zabriskie Point.
Absolument.
Merci Laurent pour la technique. On se sépare avec Pink Floyd.
Bonne soirée. Smile, I saw a single eagle in the sky.
shining.